Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs, qu'elles soient expatriées, nomades, tour du mondistes ou simples touristes. Nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout. Sur notre blog, bien sûr, parents-voyageurs.fr. Sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allô la planète. Détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode.
Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Après quelques petites vacances pour moi, d'où le petit décalage d'une semaine par rapport au rythme habituel du podcast tous les 15 jours, aujourd'hui j'accueille Antoine pour un épisode un petit peu particulier. Antoine n'est pas un parent voyageur, nous n'allons pas parler d'expériences passées ou à venir d'une famille en voyage, mais évidemment, on va quand même parler du voyage en famille. J'ai voulu faire un focus avec Antoine sur le concept des billets tour du monde. Parce qu'en fait, suite à mes capsules audio sur notre préparation de tour du monde, j'ai eu pas mal d'échanges avec d'autres voyageurs et il se trouve que ce concept de billet tour du monde soulève bien des questions. Soit on fantasme dessus, soit surtout on ne veut pas en entendre parler pour garder notre sacro-sainte liberté qu'on va chercher pendant un voyage au long cours. Et donc, on va un peu démystifier tout ça. Antoine est le directeur d'une agence qui vend des billets tour du monde. Cette agence s'appelle Avemundum. Et donc, je lui ai posé tout un tas de questions qui, j'espère, vous éclaireront, vous donneront des clés pour savoir si ce genre de billet, ben, c'est pour vous ou pas. Ça vous permettra peut-être de vous faire une idée. En tout cas, je l'espère. Avant de commencer et de laisser la place à l'épisode, je voulais juste préciser que cet épisode n'est pas du tout sponsorisé. J'ai contacté Antoine de chez Avemundum parce qu'on était en contact justement pour notre projet personnel et je les ai trouvés de bons conseils. Et voilà, donc de fil en aiguille, j'ai pensé à leur proposer à eux. Il existe évidemment d'autres agences spécialisées dans les billets tour du monde. Moi-même, j'en ai contacté plusieurs pour notre projet personnel. Donc voilà, elle propose des choses différentes, des types de billets différents, et c'est ce que va nous expliquer Antoine. Donc je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Antoine, bienvenue sur le podcast de Parents Voyageurs. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier puisque tu n'es pas un parent voyageur, mais tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi je t'ai demandé de venir sur le podcast. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît ?
Je m'appelle Antoine, je suis le directeur de l'agence Avemundum, qui est une agence spécialisée dans la vente de billets tour du monde, et je me considère comme un futur parent, pas encore un parent, mais donc on a créé cette agence il y a maintenant 5 ans, et avant de créer l'agence, j'ai beaucoup voyagé avec mon cofondateur. On a voyagé en Amérique latine, en Inde. On a couvert pas mal de destinations. Et voilà, donc c'est cette passion du voyage qui nous a fait d'abord voyager et puis qui nous a fait créer l'agence Avemundum pour rester en fait un peu dans cet état d'esprit.
D'accord. On l'entend un petit peu, je ne sais pas, tu vas me le confirmer, je pense que tu es belge.
Voilà, tout à fait. Avemundum est basée à Bruxelles. Maintenant, basée à Bruxelles, mais c'est une agence en ligne. Donc, en fait, la plupart de nos voyageurs sont quand même des Français.
Ouais, ok.
Et voilà, il y a aussi des Belges. Et les Belges, on a l'occasion de les rencontrer à Bruxelles. Mais voilà, pour les Français, c'est un peu plus compliqué de venir jusqu'à Bruxelles pour nous rencontrer. Mais c'est déjà arrivé et on a toujours beaucoup de plaisir à rencontrer les voyageurs, à partager.
Ok. Et comment est-ce que vous en êtes arrivé du coup à créer une agence de voyage qui est quand même assez spécialisée sur les billets tour du monde ? D'où est venue cette folle idée ?
Donc en fait, moi j'ai créé cette agence avec Joseph, qui était un de mes meilleurs amis, qui est resté un de mes meilleurs amis, et qui a entre-temps quitté l'agence, mais en fait lui il a étudié le tourisme et il est vraiment passionné de tourisme. Et lui, pendant ses voyages, il avait remarqué que les gens qui faisaient des tours du monde, mais souvent, ils payaient assez cher leurs billets tour du monde. Il disait, c'est pas possible, moi, je sais créer des itinéraires moins chers. Et voilà, on s'était dit, tiens, comme tous les deux, on rêvait d'être entrepreneurs, on s'était dit, mais tu sais, Joseph, à la fin de nos voyages, on va s'arrêter et on va créer une agence qui sera spécialisée dans le billet tour du monde. Et voilà, moi j'avais étudié plutôt ingénieur commercial, donc plus qui est orienté business. Donc finalement, on est des profils très complémentaires. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est lancé.
Et du coup, vous êtes partis tous les deux en voyage au long cours, c'est ça, de ce que je comprends ?
Oui, donc Joseph, il a voyagé 3 ans. Moi, j'ai voyagé 1 an et demi.
Petit joueur.
Voilà, et en fait, on se connaissait avant de voyager. Et on s'est rejoint pendant nos voyages en Amérique latine. On a acheté une voiture, on a fait un périple en 3 mois ensemble. C'est là qu'on a vu qu'on était vraiment complémentaires et qu'on savait aussi gérer des situations de stress ensemble. Et voilà, parce que ça n'a pas toujours été facile. Et voilà, c'est une expérience qui nous a donné confiance dans le fait que voilà, si on crée quelque chose ensemble, ben on va s'arriver à s'entendre.
Ouais, ok. Et c'est vrai que monter un business, ça peut aussi générer quelques situations de stress. Donc, c'est bien quand on est bien entouré. Et donc, vous avez créé donc cette agence. Vous vendez des billets tour du monde et ça va être là le cœur du sujet. Moi, j'ai voulu t'interviewer sur ce sujet-là parce que donc comme je suis en train de préparer un tour du monde avec ma famille pour un départ cet été, forcément, on s'est posé la question des billets tour du monde. Pour mon mari et moi, c'était presque une évidence. On est déjà parti 2 mois en 2017 et en Océanie, on avait fait aussi appel à une agence et on avait pris un billet tour du monde à l'époque. Et donc voilà, c'était presque une évidence de se tourner vers ce genre d'agence pour nous aider. Et puis finalement, on pourra peut-être aussi en reparler. On est un peu en train de changer notre fusil d'épaule, mais on sait toujours pas. On part dans 6 mois, mais on sait toujours pas vraiment vers où et comment acheter nos billets. En tout cas, j'ai remarqué que ce sujet de billets tour du monde soulevait pas mal de questions, des fantasmes, des craintes. Il y a un petit peu tout type de réactions. Mais force est de constater qu'on ne sait pas très bien comment ça marche. Donc voilà, donc j'ai tout un tas de questions à te poser et pour un peu lever le voile sur les mystères des billets tour du monde. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un billet tour du monde ? Comment ça fonctionne ?
Oui, c'est souvent assez compliqué. Hein. D'abord, le thème du billet tour du monde, parce que généralement, on fait une fois un tour du monde et c'est des billets effectivement qui ont certaines spécificités qui font que c'est pas comme si on achetait juste un aller simple ou un aller-retour. Et donc, on sort un peu de notre zone de confort. Et puis, c'est surtout, on va dans des destinations où on n'a pas l'habitude d'aller, avec des contraintes de visa, avec à certains moments aussi un besoin de billets de continuation. Enfin, quand même pas mal de procédures administratives. Et donc, voilà, donc on a un peu l'habitude de recevoir pas mal de questions sur le fonctionnement et surtout les à côté. Un billet de tour du monde, en fait, ça part d'un projet. Ça part d'un projet de voyageur, par exemple, d'une famille qui a décidé de faire un break dans sa vie, de partir pendant 1 an voyager. Et ça commence déjà bien avant, parce que ça commence 3-4 ans avant de partir. On commence à économiser, on commence à se projeter. À un moment donné, on a des voyageurs qui nous contactent 1 an et demi en nous posant déjà des questions sur, voilà, en fait, finalement, on va devoir prendre l'avion. Est-ce que... voilà, ça marche un peu comment les billets d'avion. Ils vont se renseigner sur les différents types de billets tour du monde. Enfin, donc, est-ce que... Parce qu'en fait, il y a plusieurs types. Il n'y a pas un billet tour du monde. Il y en a deux, en fait. Il y a aussi... Ça, c'est les billets tour du monde quand on passe par une agence. Il y a aussi la possibilité de le faire par soi-même. Et en fait, toutes les différentes options, ça entraîne des avantages et des contraintes. Et donc, en fait, il faut bien comprendre... Quels sont ses avantages et ses contraintes pour pouvoir prendre cette décision de quelle façon on va acheter son billet.
Tu dis qu'il y a deux types de billets tour du monde. C'est quoi ces deux types ?
Alors, on va dire qu'il y a le billet tour du monde qu'on appelle classique ou en fait qui est le plus connu. C'est les billets tour du monde qu'on achète avec les alliances aériennes.
Ouais.
Et en fait, donc ces billets... En fait, le prix est calculé en fonction du nombre de miles, du nombre de kilomètres qu'on va parcourir et du nombre de stops qu'on va faire. En fait, on parle souvent de segments et de miles. Et donc, c'est un billet tour du monde, en fait, qui a la particularité qu'il faut définir l'ensemble à l'avance. Donc, on va définir toutes nos destinations, on va définir tous nos tronçons. Et une fois qu'on valide, qu'on achète ce billet, du coup, tout est fixé. Donc, toutes les destinations sont fixées. On va pouvoir changer les dates gratuitement jusqu'à 24 heures avant le vol, mais on va plus pouvoir changer les destinations.
Okay.
Et ce billet, en fait, a la particularité qu'il est que le prix augmente de plus en plus avec le nombre de kilomètres parcourus. Et donc, pour des itinéraires qui sont très, on appelle ça dans le jargon rectiligne, en fait, qui ont peu de destinations, qui se trouvent tous sur une même ligne, donc c'est comme si on faisait le tour du monde sur une ligne, c'est des billets qui ont un prix très compétitif. Mais plus on va rajouter de kilomètres, plus on va, si on doit par exemple aller en Afrique, si on va devoir aller passer par l'Océanie pour aller en Amérique du Sud, pour remonter vers l'Amérique du Nord, ben plus on va faire de kilomètres, au plus les prix vont augmenter et à un certain moment donné, ça ne va plus devenir intéressant.
D'accord.
Bien, dès qu'on augmente le type de kilomètres, ben c'est des billets qui sont moins intéressants. Donc ça, c'est le premier type de billet, donc basé sur les alliances. Si je résume, c'est donc l'avantage, c'est que voilà, on peut modifier les dates gratuitement et c'est demandé, par exemple, pour par exemple des voyageurs qui voyagent à vélo et qui savent pas trop quand ils vont arriver dans la ville de destination pour aller dans une autre destination et donc pouvoir vraiment changer les dates au dernier moment, c'est un gros avantage. Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que changer les dates, ça a aussi un impact sur les visas. C'est-à-dire que dans certaines destinations, on ne peut pas changer les dates parce que sinon, on doit rentrer dans d'autres types de visas. Il y a certaines destinations comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande où finalement, où la plupart des voyageurs louent un campervan et donc finalement, les dates, elles sont fixées. Et par exemple, je prends un autre exemple, mais la Polynésie française, généralement, on va conseiller à nos voyageurs de réserver très très tôt les hébergements sur place pour avoir les meilleures offres. Mmh. Et donc, finalement, ce billet qui offre l'opportunité de changer les dates gratuitement, en pratique, ça va être un peu plus compliqué parce que voilà, on a quand même beaucoup d'autres contraintes en fait.
Okay.
Donc ça, c'est le premier type de billet. C'est le billet classique avec les alliances, les compagnies alliances. Ce qui est le plus connu, en fait, finalement. Nous, on est dans la deuxième catégorie. C'est une catégorie, en fait, qui est assez récente. C'est que nous, voilà, dans les agences francophones, c'est nous qui avons lancé cette nouvelle façon de prendre un billet tour du monde. Et donc, en fait, nous, comment ça va se passer? C'est qu'on va fixer avec nos voyageurs un itinéraire, qu'on va... pour cet itinéraire, fixer un tarif fixe, et puis on va réserver les vols au fur et à mesure. Et donc, tant que le vol n'est pas réservé, en fait, le voyageur a l'opportunité de changer la date et la destination. Et une fois qu'il est émis le billet, à ce moment-là, c'est selon les conditions des compagnies aériennes. Et donc, par exemple, quand un voyageur confirme avec nous, généralement, on va émettre ces deux premiers billets et puis on va revenir avec lui entre 5 et 3 mois avant chaque date de vol en lui demandant, ben voilà, il est temps d'émettre ton prochain billet. Est-ce que, voilà, tu es toujours d'accord avec la destination et avec la date? Donc voilà, c'est une autre flexibilité puisque une fois que le billet est émis, on peut plus changer gratuitement la date, mais tant que le billet n'est pas émis, on peut vraiment tout modifier. Et alors nous, dans les modifications, qu'est-ce qu'on regarde? C'est un peu les tarifs différentiels. Les modifications sont gratuites, mais on va regarder si voilà, il n'y a pas de différence de tarif entre les nouvelles dates, ou bien voilà, ils veulent changer un vol avec une autre destination, une autre ville de départ. Donc voilà, tout ça c'est possible. Et en fait, nous on remarque que beaucoup de nos voyageurs, surtout en fin d'itinéraire, modifient très souvent leur itinéraire.
Ouais.
Parce qu'ils se sont laissés influencer par de nombreux voyageurs qu'ils ont rencontrés pendant leur tour du monde et que voilà, et que finalement on a décidé qu'on n'irait plus là. Des fois, il y a même des situations politiques qui font que par exemple, maintenant, voyager en Équateur avec la situation qui est un peu compliquée, et ben on nous demande voilà, en fait, on ne veut plus atterrir en Équateur, mais on aimerait bien atterrir directement au Pérou. Donc voilà, c'est des billets qui permettent cette flexibilité. Et donc voilà, ça c'est un peu notre manière de fonctionner.
Ouais, ok. Mais donc, mais c'est quand même une flexibilité jusqu'à 3-4 mois avant de prendre le vol, quoi.
En fait, ce qu'on dit généralement à nos voyageurs, c'est que s'ils sont pas sûrs, alors nous on peut attendre avant de prendre le vol. Après, à un certain moment donné, on peut plus attendre pour garantir nos tarifs préférentiels. Mais il y a certains voyageurs qui disent, ben voilà, on est encore perdu, on est moins de 3 mois avant la date de vol, on est perdu, on ne sait pas où aller. À ce moment-là, on dit, ben ok, vous savez quoi, on ne va pas réserver votre vol, mais on va attendre que vous soyez sûr. Mais à ce moment-là, si voilà, il y avait des tarifs différentiels, ce serait à votre charge. Mais ce sera toujours moins cher que de réserver le vol et puis de devoir payer des frais pour modifier. Surtout qu'une fois qu'un vol est émis, on peut rarement modifier les destinations. On peut toujours modifier les dates, mais pas les destinations.
Et est-ce qu'il y a quand même des grandes règles un peu génériques sur ces billets Tour du Monde ? Moi, j'avais lu que le voyage doit durer maximum 1 an entre le premier billet et le dernier. Faut faire une transatlantique, une transpacifique. Est-ce qu'il faut respecter à la lettre le fait d'avancer autour du monde ? Ou est-ce que des fois, on peut un peu revenir en arrière ? Comment ça se passe, ça ?
Alors, toutes ces règles, c'est valide pour les billets qui sont conçus avec les alliances aériennes.
Ah oui, ok.
Basé sur des miles et des segments. Et effectivement, il y a certaines règles. Donc, il faut respecter, toujours aller dans une direction. C'est maximum 1 an. Donc ça, effectivement, ça fonctionne pour les alliances aériennes. Pour nous, on n'a pas ces contraintes, puisqu'on ne passe pas par les alliances aériennes. En fait, nous, on utilise toutes les compagnies aériennes. Après, on demande les préférences à nos voyageurs. Par exemple, est-ce que vous êtes prêt à prendre des compagnies low cost, des compagnies régulières ? Pour quel type de tronçon vous voulez, quelle ou quelle compagnie ? Généralement, ils font le plus économique. Ils vont plutôt regarder les horaires. Ils voudront des horaires plus confortables que vraiment le type de compagnie aérienne. Et donc, dans notre cas, on n'a pas ces contraintes.
Ouais, ok. Donc, c'est les alliances vraiment qui mettent les contraintes de ce genre-là, quoi.
Oui, mais il faut quand même, à une nuance près, que les alliances, en fait, aller toujours dans une direction, c'est pas mal. Parce que même au final, si dans notre, chez nous, nous n'avons pas ces contraintes, au final, les voyageurs vont respecter quand même, aller toujours aller dans le sens. Parce que si vous allez dans le sens, puis vous revenez pour repartir, en fait, vous rajoutez des vols. Et ça coûte, ça va vite faire augmenter
le
tarif du billet de faire des zigzags, en fait. Donc, les zigzags, c'est possible, mais en réalité, il y a peu de nos voyageurs qui font des zigzags, sauf s'ils ont vraiment un budget qui leur permette de faire ça.
Oui, oui, ok. Non, mais c'est sûr que c'est pas très cohérent, quoi. Sur le papier, en tout cas, ça n'a pas vraiment de sens de faire des zigzags. On essaye tous, en effet, je pense, de passer le moins de temps possible dans les transports, au final. Même si on se dit qu'en 1 an, on a le temps, l'idée n'est pas non plus de passer notre temps dans des aéroports, des gares, des trains, des avions, etc. Donc, on essaye tous de faire un itinéraire un peu cohérent en termes de kilomètres. Et est-ce que on est obligé de, je vais dire un exemple, mais de genre de partir de France et de revenir en France, enfin de le pays de départ et d'arrivée doivent être similaires.
De nouveau, ça c'est valable pour le premier type de billet,
ouais, okay.
Le billet basé sur les alliances. Chez nous, non en fait, parce que en fait, oui, donc chez nous. On n'a pas cette contrainte. Donc, par exemple, il y a des voyageurs qui font un demi-tour du monde et qui s'arrêtent en Australie pour faire un PVT. Mmh. Et donc, voilà.
Okay.
Donc, oui et non.
Ça ouais, dépend. Ouais. Ouais, ouais, ça dépend.
Nouveau, ça va dépendre aussi du besoin, finalement. Ça va dépendre du besoin des voyageurs parce qu'il y a des voyageurs qui dorment au boulot et qui vont faire un Paris-Paris. Et puis, il y en a d'autres qui ont plus de possibilités parce qu'ils n'ont pas de contraintes quand ils rentrent. Alors, ils peuvent se dire, on va peut-être prolonger un peu notre voyage.
Et, mais du coup, donc si j'ai bien compris, vous n'êtes pas affilié à une seule alliance. Vous faites voyager sur toutes les compagnies aériennes qui existent. Mais alors, comment vous faites pour avoir des meilleurs prix ?
Alors, nous, en fait, on a des tarifs préférentiels avec les compagnies aériennes. Et puis, on a des très bonnes connaissances de l'aérien. Alors, je prends souvent, en Belgique, il y a un aéroport, il y a Bruxelles, mais il y a aussi un aéroport qui se trouve à 50 km de Bruxelles, qui s'appelle l'aéroport de Charleroi. Mais voilà, à Charleroi, on sait généralement que les tarifs sont plus intéressants qu'à Bruxelles. Alors, pour un Belge, lui, c'est ça. Mais par exemple, quand un Belge part autour du monde et savoir qu'à Bangkok, il y a 3 aéroports, mais qu'il y en a un qui a des tarifs plus intéressants que l'autre. Donc voilà, c'est nos tarifs préférentiels, une expertise de l'aérien, le fait aussi d'optimiser les itinéraires qui nous permettent finalement d'avoir un tarif très compétitif.
Et qu'est-ce que tu veux dire par optimiser un itinéraire ?
Alors optimiser, c'est-à-dire que en fait nous, pour vous proposer le meilleur tarif, on va aussi regarder comment il faut agencer les destinations. C'est-à-dire que les destinations, il y a certaines contraintes pour d'aller dans chaque destination à la bonne saison. Mais après, quand on a un peu de jeu, on peut dire, ben, en fait, on va essayer d'agencer les destinations pour que votre billet d'avion coûte le moins cher. Et comme on n'a pas toutes ces contraintes de sens, de miles, de durée, ça nous permet d'avoir vraiment une grande flexibilité. Et en fait, nous aussi, ce qu'on demande à nos voyageurs, c'est un peu de flexibilité par rapport à leur date de vol. C'est-à-dire que, en fait, quand un voyageur nous fait une demande de devis, on va leur demander, tiens, est-ce que vous avez des dates de vol où vous êtes vraiment fixe, ou en fait, est-ce qu'on peut vous trouver en fait un vol qui se situe un jour en moins ou un jour en plus. Donc, on demande aussi un peu la flexibilité de nos voyageurs.
Et d'ailleurs, quand on vous demande un devis, c'est quand même plusieurs mois avant le premier départ, en fait, avant le premier vol. Donc, d'office, je pense qu'à ce moment-là, tous les voyageurs ont de la flexibilité, non ? Il y a peut-être quelques... Oui. Parfois, on peut intégrer un événement particulier au sein d'un voyage et il ne faut pas louper la date, mais j'imagine que ce n'est pas le plus fréquent.
Non, généralement, ils ont beaucoup de flexibilité. En fait, on est très flexible avec les voyageurs et généralement, les voyageurs sont assez flexibles avec nous. Ceux qui ne sont pas flexibles, c'est une minorité de voyageurs et donc, du coup, voilà, s'ils nous demandent de cadenasser une date, par exemple, un exemple typique, mais ça, c'est avec beaucoup de voyageurs, c'est les voyageurs, ils veulent arriver en Australie, sortir de l'aéroport et aller chercher leur van pour pas devoir payer une nuit d'hôtel. Et donc, là, les horaires sont importants, la date est importante. Et on dit toujours à nos voyageurs, ok, mais attendez que le billet d'avion soit réservé avant de réserver votre location de campervan. Nous, on essaie vraiment de sensibiliser nos voyageurs parce qu'ils font le contraire, qu'ils font d'abord la réservation de van et puis qu'ils reviennent vers nous. Et alors, il y a quelques discussions. Il y a certains moments, par exemple, si vous arrivez, ils ont réservé un voyage dans un pays avec des dates. Mais à ce moment-là, mais généralement, ils vont le réserver assez à l'avance. Ce qui va nous permettre aussi de réserver les billets aussi à l'avance et d'avoir les bons horaires parce que c'est pas des vols qu'on réserve en dernière minute où il n'y a plus beaucoup de disponibilité et qu'on doit un peu regarder.
Ouais, parce que pour le coup, quand je vois le prix des vannes en Nouvelle-Zélande et en Australie, il faut quand même s'y prendre plusieurs mois à l'avance. D'office, il faut que ça matche. On peut pas être 3 mois à l'avance à se dire, ok, je vais attendre l'émission du billet d'avion pour réserver mon van, quoi. Donc, on est obligé de caler tout ça de concert, quand même.
Oui, en fait, généralement, on le fait le plus tôt possible.
Ouais.
À la demande du... Mais c'est toujours une sorte de balance, parce que les voyageurs, ils veulent en même temps avoir... En fait, ce qu'on remarque, nous, c'est que sur certains vols, ils veulent qu'on les réserve très tôt, très à l'avance pour avoir de la flexibilité. Et pour d'autres, ils nous demandent « Ah, ça, s'il vous plaît, réservez le plus tard possible parce que, c'est un petit vol interne en Asie du Sud-Est et on ne sera pas trop quand on va le prendre.
Ouais. »
Ce qui se passe, c'est que, donc on va attendre le plus longtemps possible pour réserver le vol.
Ok. Et comment vous faites pour établir un devis global ? 6 mois avant le premier vol, alors que tous les vols ne sont pas encore sortis.
Alors, ça, c'est une bonne question. On a un outil qui nous permet de planifier, en fait, de planifier les coûts des vols, même à long terme. Et puis, c'est aussi un peu c'est l'expérience, en fait. L'expérience est un outil qui nous aide à planifier.
Ouais. Est-ce que vous, du coup, point de vue entreprise, vous prenez un risque parfois, un risque financier aussi, parce qu'en fait, vous annoncez un prix, les voyageurs vous payent l'intégralité en fait, du billet Tour du Monde avec tous les vols sur lesquels vous êtes mis d'accord avant le départ, pour sceller un peu la transaction. Mmh. Et vous, vous émettez les billets au fur et à mesure. Parce que de toute façon, les compagnies aériennes ne sortent pas leur vol. Enfin, je ne sais pas s'il y a une règle, mais en gros, plus d'un an à l'avance, on n'a pas les... C'est impossible, il n'y a pas déjà les vols. Donc, est-ce que vous, en fait, à certains moments, vous prenez un risque en disant, sur base de l'historique, sur base de notre connaissance du marché, etc., on pense qu'on peut offrir ce genre de prix à nos voyageurs et qu'en fait, soit des fois, vous êtes vachement gagnant et soit des fois, vous êtes perdant.
C'est vraiment une question d'expérience, en fait. Effectivement, certains vols, on achète en package. En fait, on construit nos billets de différentes façons. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Mais en fait, pour résumer, avec notre expertise, finalement, après, ça fait maintenant 6-7 ans que l'agence existe. Et finalement, voilà, on est rarement surpris. Maintenant, ce qui est important aussi de savoir, c'est que chaque fois que les voyageurs passent avec une agence de voyage, en fait, eux-mêmes sont protégés contre la faillite de l'agence de voyage. En fait, c'est une obligation en France et en Belgique d'avoir que l'agence de voyage soit assurée contre son insolvabilité. Et donc, en fait, vous, quand vous passez par une agence de voyage, il n'y a jamais aucun risque que vous perdiez ou que celle-ci... tomber en faillite. Donc ça, c'est quand même très rassurant pour les voyageurs. Ouais.
Et il y avait une question que je me posais, parce que tu l'as un petit peu évoqué, donc des fois, vous achetez les billets par paquet, ce qui fait que vous avez, j'imagine, des prix plus avantageux, forcément. Est-ce que vous pouvez faire vraiment tout le temps du sur-mesure avec, je ne sais pas, des vols que vous n'avez jamais vendus, mais... et que ça reste intéressant pour le voyageur, ou alors des fois, parce que je crois que c'est Mathias, du coup, ton collègue, qui m'avait dit ça, mais comme j'ai contacté pas mal d'agences, peut-être que je me trompe, mais que par exemple, nous, on voudrait aller sur l'île de Pâques pendant notre voyage en Amérique du Sud, et il m'avait dit, en fait, nous, on n'est pas positionné particulièrement sur ces billets-là, donc autant que vous le preniez par vous-même, on l'intègre pas dans le package billets Tour du Monde. C'est dû à quoi, du coup, ce genre de conseils?
C'est assez spécifique, l'île de Pâques, parce que l'île de Pâques, c'était une destination où beaucoup de voyageurs tour du monde s'y rendaient avant le Covid, parce qu'il y avait des connexions entre l'île de Pâques et la Polynésie française qui fait que c'était très intéressant de s'y rendre et que cette connexion n'existe plus.
Ça, c'est nul. S'il y a quelqu'un de chez LATAM qui nous écoute, c'est nul. Rétablissez la connexion entre Papette et l'île de Pâques.
Voilà, mais c'était un vol par semaine, donc c'était quand même quelque chose déjà d'assez exceptionnel. Donc voilà, ça va. Au début, on avait beaucoup de voyageurs qui disaient « Ah, mais réservez surtout ». Voilà, un des avantages de passer par notre agence, c'était qu'on ne réservait pas directement ce vol. Donc ils nous attendaient « Ah, mais attendez le plus possible pour réserver ce vol, parce que si la liaison réouvre, ben alors on voudrait changer tout notre itinéraire pour aller directement en Amérique du Sud ». En fait... pour ce billet en particulier, en fait, le mieux, c'est de l'acheter directement au Chili. Parce que vous avez, si vous passez par une agence chilienne, vous pourrez avoir un meilleur prix que si vous passez par une alliance, par une agence de voyage belge ou européenne. Parce qu'en fait, dans certains pays, les compagnies aériennes appliquent deux tarifs. Un tarif pour les locaux et un tarif pour les étrangers. Et donc, pour bénéficier de ce tarif pour les locaux, qui est quand même dans le cadre d'Île de Pâques, on est quand même à une différence, ça peut aller jusqu'à 400 euros. Voilà. Donc nous, effectivement, si sur cette liaison, finalement, c'est pas très intéressant de passer par chez nous, on va généralement recommander nos voyageurs. Soit, alors que ce soit pour cette liaison ou pour une autre liaison, si nous finalement on n'a pas de valeur ajoutée pour le voyageur, alors qu'est-ce que c'est de la valeur ajoutée pour le voyageur? C'est finalement lui simplifier la vie, c'est-à-dire que vous vous occupez de la réservation et nous on peut dormir sur nos deux oreilles, voilà, on a fixé, ou bien que voilà, finalement on n'a pas de tarif référentiel et donc finalement... c'est peut-être mieux de le réserver par vous-même une semaine avant de vous rendre à l'île de Pâques ou quand vous serez sûr. Voilà, donc faut un peu toujours voir pour la liaison quand on dit voilà qu'on n'est pas n'a pas des tarifs intéressants, quelle est la raison derrière. Et puis par rapport à la motivation des voyageurs aussi.
C'est-à-dire?
Mais ça dépend, s'ils recherchent de la flexibilité, ben on va leur dire peut-être voilà, c'est peut-être mieux de le réserver par vous-même un mois avant de vous rendre. Si s'ils recherchent de la facilité et que finalement c'est l'agence qui s'occupe de réserver tous les billets, alors on peut s'en occuper. Voilà, si ils veulent payer le moins cher, enfin si voilà, c'est peut-être mieux qu'ils le réservent par eux-mêmes, parce que nous on n'a aucune valeur ajoutée sur ce vol, on n'a pas de tarif préférentiel, donc finalement on va devoir quand même travailler à réserver ce vol, donc voilà, on va devoir prendre un peu voilà, on va devoir se rémunérer pour le travail qu'on fait, donc voilà, donc ça va dépendre aussi un peu de l'objectif.
Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce que tu dirais, de manière générale, quels sont les avantages à passer par une agence ? Donc là, tu en as déjà un petit peu évoqué. Il y a des choses, moi, qui me parlent, parce qu'au début, on s'était dit, on va se tourner vers une agence, parce qu'au moins, pour fixer les changements de continent, au moins, parce que ça nous enlève ça de l'esprit, c'est des vols qui coûtent un peu cher, on se fixe un tarif, au moins, on est au clair avec ça avant le départ, on n'a pas besoin de s'en occuper, de faire des recherches, parce que ça prend du temps de chercher un billet d'avion qui correspond, qui est au bon prix, qui correspond en termes de date, etc. C'est pour ça que nous, on imaginait vraiment se tourner vers une agence comme la tienne. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à passer par une agence ?
Il y a plusieurs motivations hein, de passer par une agence. Il y a, je dirais, une motivation plus primaire, c'est vrai, on réserve un billet d'avion, souvent, c'est le prix. Le prix fait office de, on doit réserver un billet d'avion intra-Europe, et ben on a l'habitude d'aller sur un comparateur, de comparer et de réserver le billet le moins cher. Donc effectivement, quand on va acheter un billet tour du monde, ben on va suivre cette même logique, on va aller chez différentes agences et on va regarder le billet le moins cher. Donc ça c'est une logique. Et après, on se rend compte qu'il y a des petites conditions à gauche, à droite, et en fait, ils ne proposent pas tous la même chose aux mêmes conditions. C'est là que ça devient un peu compliqué. Après, voilà, chaque agence a une façon de fonctionner différente, et donc pourra proposer des tarifs peut-être plus compétitifs sur certains itinéraires. Comme j'ai dit, les billets basés sur les alliances, c'est très, très économique oui. Quand on a un itinéraire avec 4-5 stops et c'est en rectiligne. Voilà, nous, quand on reçoit une demande comme ça, ben, on a toujours tendance à dire, ben, écoutez, on n'est pas la bonne agence chez qui vous vous adressez, parce que pour ce type d'itinéraire, c'est mieux d'aller chez nos concurrents. Et puis, pour les itinéraires où on fait des offres, c'est là où on pense qu'on a une plus-value en termes de prix. Ou bien, si finalement, le prix qu'on trouve est équivalent au vôtre, ben, ça, c'est le deuxième argument, c'est en termes de confort et de sécurité. Confort, parce que finalement, vous payez un tarif fixe, et en fait, c'est quand même pas mal d'organisation de faire un tour du monde, et donc il faut aussi se rendre compte que gérer son budget, on va aller dans 12 pays, généralement, les voyageurs divisent ça par paquet, et c'est facile de pouvoir faire un paquet, ok, on a acheté les billets, maintenant, ce qui nous reste, on va le diviser en fonction des pays où on va. Donc il y a une question de facilité de budget. Deuxièmement, c'est effectivement, nous, on s'occupe de la réservation des vols. La réservation des vols, de gérer les changements, de gérer les annulations. On a l'habitude, donc on fait ça rapidement. On sait, voilà, hein, par exemple, tous les voyageurs ne connaissent pas leurs droits, typiquement. Or que nous, on les connaît pour vous. Et donc, quand il vous arrive une situation, nous, on peut facilement... voir comment on peut la tourner à votre avantage. Que quand on ne connaît pas ça, ben, aïe, zut, qu'est-ce qu'on va faire ou, ouf. Donc, donc il y a cette facilité de réservation. Si vous vouliez les réserver par vous-même, les vols, ben, j'ai encore croisé une personne qui a fait un tour du monde il y a 5 ans et qui a réservé ses vols par eux-mêmes, et c'est vrai. Mais ils nous ont dit, ben là, à refaire, on passerait par une agence. Parce qu'on a passé énormément de temps à chercher les tarifs, à chercher les vols. Quand on n'a pas l'habitude de réserver un billet d'avion, il y a un côté un peu indécis. Hein. Est-ce que je le réserve maintenant ? Ouais. Est-ce que j'attends une semaine ? Moins cher. Surtout que quand on s'était dit j'achetais à une somme et puis le montant est plus élevé. Et là, qu'est-ce que je fais hein ? Et donc, c'est quelque chose qui commence à nous travailler. Et puis, on prend des compagnies aériennes qui ne sont peut-être pas de qualité ou qu'on ne connaît pas. Et donc, voilà. Donc, ça peut... Je pense que, en fait, de mon expérience, je remarque que, par exemple, surtout les familles, elles passent par des agences de tour du monde, parce qu'il y a ce côté sécurité. Donc, il y a ce côté, d'abord, on a un tarif fixe, ils s'occupent de tout, finalement. Et quand on a un problème, on le résout d'abord avant de revenir chez les voyageurs. C'est quand même plus confortable que devoir gérer soi-même les problèmes. Et puis aussi, il y a tout le service qui va avec, tous les conseils. Nous, par exemple, on a une ligne ouverte où on peut nous appeler en semaine, en week-end, si on a des urgences. Alors, heureusement pour nous, il n'y a pas beaucoup d'urgences parce qu'on fait quand même beaucoup de prévention à l'avance, avant qu'ils partent pour, faites attention au visa, faites attention au vaccin, vérifiez. La grande majorité fait ça très bien, mais il y en a encore qui se rendent compte ou qui ratent leur vol. Et là, ils sont super contents de passer par une agence qui peut les aider rapidement à trouver une solution. Par exemple, pendant le Covid, il a fallu rapatrier les voyageurs. Heureusement pour nous, ce n'était pas les 5 continents en même temps. Un continent après l'autre a fermé, il fallait rentrer. Et donc là, on a aidé tous nos voyageurs à trouver des vols pour rentrer, à annuler leurs vols, à gérer les remboursements. C'était une tâche, un travail immense. Oui, parce qu'on parle souvent du billet tour du monde avec ses spécificités, mais on ne parle pas des spécificités de l'agence. C'est-à-dire qu'il y a des agences, en dehors du type de billet qu'ils vendent, il y a des services différents. Par exemple, il y a des agences qui sont uniquement en ligne, où il faut aller sur le site internet pour discuter. C'est plus dur de les contacter, il faut prendre rendez-vous. On a rendez-vous une fois, il y a d'autres agences avec qui on peut plus facilement discuter, qui sont plus joignables en cas de problème. Donc, il y a aussi ce facteur qui est souvent mélangé, en fait. Parce que comme il n'y a pas beaucoup d'agences et qu'elles travaillent un peu différemment, on font service de l'agence et type de billet, et finalement, on prend ça comme un tout, alors que finalement, il pourrait y avoir, par exemple ici, des billets classiques basés sur sur les alliances, mais finalement vous pouvez l'acheter directement sur le site de l'alliance, vous pouvez passer par 2-3 agences, mais les 2-3 agences ont aussi des manières de fonctionner internes différentes qui proposent des services, du conseil, du suivi qui est aussi différent.
Ouais, mais t'as raison de dire qu'en fait on met tout dans le même sac. Moi la première en fait, parce que je me rends compte que en 2017 quand on était parti, du coup c'était avec une alliance. C'était Air New Zealand, British Airways, et donc à la base je m'étais dit pareil, mais je me disais mais comment on fait un tour du monde avec une seule alliance, enfin nous c'était un endroit du monde très spécifique qu'on avait visité, donc ça marchait, et donc je me posais cette question, mais c'est vrai qu'en gros on appelle ça une agence billet tour du monde et puis point barre, on met tout le monde dans le même panier, et en effet j'avais pas trop conscience non plus des différences de service, après comment on les contacte, etc. C'est intéressant. Et qu'est-ce que tu pourrais répondre à des gens, parce qu'on en entend beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi, qui disent l'énorme problème d'un billet tour du monde, c'est que tout est cadenassé à l'avance, que tu peux pas te laisser justement influencer, comme tu disais au début, par d'autres voyageurs, par tes rencontres, par finalement changer d'avis sur ton itinéraire. Ça te contraint vachement.
Alors, ça, c'est un... Et donc, ces gens, finalement, qu'est-ce qu'ils conseillent? C'est de prendre les billets par vous-même.
Ouais.
Mais prendre les billets par vous-même, c'est les mêmes contraintes. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est pas de contrainte est une contrainte. Parce que pas de contrainte, c'est-à-dire pas réserver ces vols à temps, ça veut dire que vous allez les réserver en retard. Quelque sorte, c'est-à-dire que, les billets d'avion vont être plus chers, que finalement, vous allez... vous dire « Ah mince, on s'y prend un peu tard pour aller là. » Ah, les billets d'avion, là, ils ont bien augmenté. C'est vrai, vous n'aviez pas de contrainte, mais le moment où vous allez devoir réserver le vol, ça va devenir une contrainte. Et il y a des voyageurs qui, c'est vrai, ils veulent réserver tout leur vol 2-3 mois avant chaque vol. On voulait aller en Patagonie, mais finalement, on a vu les prix des billets, on n'y est pas été.
Ouais.
Parce que, en fait, Si vous voulez, moi je pense qu'un tour du monde, c'est quand même quelque chose de très organisé. En fait, un tour du monde, par principe, on va d'un pays à l'autre et on fait quand même beaucoup de pays. Et on ne peut pas le faire d'une manière désorganisée parce qu'il y a des contraintes de visa, mais aussi si je reste plus longtemps dans ce pays, ben, je resterai moins longtemps dans le pays. Ah oui, mais alors ce ne sera plus la bonne saison. Donc finalement, que réserver par vous-même, ça a des contraintes. Vous avez des contraintes en réservant les vols par vous-même. Et voilà.
Chacun de voir où il met le curseur, en fait, et ce qu'il est prêt à accepter justement comme contrainte. Parce que c'est vrai que ça prend du temps de chercher les billets qui correspondent, comme je disais tout à l'heure, qui sont au prix qu'on avait imaginé et qui donc rentre dans le budget. On en revient souvent au prix, mais c'est vrai que c'est quand même un élément important quand on prépare un tour du monde en famille. On doit là déjà lâcher quelques milliers d'euros, donc quelques dizaines. Donc évidemment, il faut que ça rentre. Et en plus, c'est ce qu'on se disait aussi, ça libère vachement de charge mentale en vrai. On fixe les grands caps et puis après on a le temps déjà qu'il faudra gérer la logistique du quotidien, les transports du quotidien, les hébergements, les activités, l'école des enfants, etc. Et donc ça libère de la charge mentale. Donc je dirais c'est peut-être à chacun de voir où est-ce qu'il est prêt à mettre le curseur.
Je vais juste revenir sur les contraintes. Hein. Donc ceux qui disent qu'effectivement passer par une agence, ça a des contraintes. On a vu que pas passer par une agence, finalement, on a aussi pas mal de contraintes. Sauf qu'en plus d'avoir des contraintes, on a de l'incertitude parce qu'on n'est pas un expert. Donc finalement, on évolue dans un monde qu'on ne connaît pas très bien parce que c'est normal. Enfin, je veux dire, réserver un vol dans des pays qu'on ne connaît pas, des destinations qu'on ne connaît pas, les tarifs fluctuent, finalement, ça prend du temps. Donc c'est aussi une contrainte de temps. Donc moi, je dirais qu'avoir quelques contraintes, c'est bien parce que aussi, ça permet de pas... En fait, ce qui est important, je pense, c'est que c'est bien d'être bien conseillé au début de votre tour du monde. On a bien cerné vos envies. Au début, voilà, aller dans des endroits qui vous font rêver. On reste suffisamment de temps pour en profiter. D'accord ? Donc pas faire une semaine dans chaque destination parce que là, effectivement, nous, on sensibilise nos voyageurs. Donc, un itinéraire bien conçu, c'est très important. Au début, ce qu'on remarque, c'est que les gens vont suivre leur itinéraire parce que c'est le début. Hein. Ils n'ont pas encore rencontré trop de monde. Ils n'ont pas encore beaucoup d'expérience. En fait, ce qu'on voit aussi, c'est que plus on voyage, plus le rythme de voyage diminue. Et donc, finalement, là où les 6 premiers mois, on peut s'autoriser à faire un pays par mois, par exemple, eh ben, on sera sur un mois et demi par pays par après parce que en fait, on a vu tellement de choses que finalement, on a besoin d'aller plus doucement. En fait, on apprécie différentes choses. Et donc, à un moment donné, nous, ce qu'on remarque, c'est que voilà, beaucoup de voyageurs modifient la fin de leur itinéraire. Mais généralement, le début est assez... Et la moitié, et surtout la moitié, finalement, ça tombe sur l'Océanie et la Polynésie française. Et là, il faut tout réserver à l'avance.
Ouais.
Et les voyageurs, ils adorent quand c'est à l'avance. Pourquoi ? Parce que pendant un moment donné, pendant leur tour du monde, ils vont plus devoir réfléchir où je dors ce soir, où je vais. Tout est planifié à l'avance et généralement, ils l'ont fait quand ils étaient encore à la maison. Donc, ils peuvent arriver à cette étape du voyage où ils font « Oh mon Dieu, je ne dois plus rien penser, je peux juste profiter ». Et puis on balance sur l'Amérique latine, je parle, ça est valable dans les deux sens, mais on balance et là effectivement on reprend ce rythme. Et donc voilà, ça c'est un peu mon expérience, mon ressenti par rapport au voyage, à la façon d'effectuer un tour du monde.
J'ai une autre question qui n'est pas exactement, directement liée à tout ce qu'on a déjà évoqué, mais faire un tour du monde de surcroît en faisant des changements de pays ou de continent en avion, ça a une empreinte carbone complètement délirante. Qu'est-ce que vous proposez pour qu'on puisse s'alléger un petit peu la conscience ? Parce que bon, On parle de compensation, on ne compense pas vraiment, le mieux étant évidemment de ne pas émettre toutes ces saletés. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour dormir un petit peu mieux?
Alors, si vous voulez vraiment très bien dormir, pas prendre l'avion, ouais. Pas faire de tour du monde. Alors, je vais peut-être dire une aberration, mais un tour du monde, c'est un voyage plus écologique que les autres voyages en avion. Parce que, d'abord, au lieu de faire des allers-retours depuis l'Europe, finalement, on va toujours faire des sauts de puce en ne revenant pas sur nos pas. Mais ouais. En fait, finalement, oui, on va visiter des destinations qui sont sur le chemin. En fait, finalement, prendre un vol Paris-Tokyo, c'est équivaut à faire le tour du monde en avion.
Ouais.
Parce que vous allez de l'autre côté. Donc ici, sauf qu'un billet tour du monde, vous partez longtemps. Partez pendant un an. Sur le chemin, vous allez vous arrêter un peu partout et découvrir les destinations. Donc, c'est quand même une façon de voyager plus écologique, dans le sens où, c'est vrai, vous prenez quand même l'avion, mais vous allez passer plus de temps à voyager. On remarque aussi que les voyageurs, ils ont un peu tous des opinions différentes, ou en tout cas des besoins différents. Et qu'effectivement, quand on a des voyageurs qui ont cette volonté écologique de réduire, on va essayer de privilégier les vols directs et les passages par voie terrestre. Après, le billet faire un tour du monde en un an, on est obligé de prendre l'avion. C'est aussi une des contraintes,
ouais.
de parce que on ne pourrait pas faire tout par voie terrestre pendant un an. Ce serait trop, il y aurait trop de transport. C'est pas possible. On fait pas un tour du monde. On ferait un continent, peut-être.
Ouais, ouais. Bon, quoi qu'il arrive, on ne fait pas non plus vraiment un tour du monde, dans le sens où on fait quoi, 12-13 pays dans l'année. On est assez loin du compte, quand même. Donc, c'est... Mm-hmm. Moi, j'aime mieux parler de voyage au long cours, parce qu'on peut partir un an et traverser les Amériques. Et c'est déjà, enfin voilà, c'est pas un tour du monde. On sera pas passé par l'Asie, par l'Océanie, on sera pas par l'Afrique, etc. Mais ça reste quand même un peu, en tout cas dans la catégorie, par exemple, enfin si je parle de catégorie, chez parents voyageurs, voilà, on parle de voyage au long cours, ça englobe plus de types de voyages, quoi.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Que billet tour du monde, ça veut tout et rien dire.
Ouais.
Mais non, effectivement, de notre côté, ouais, les voyageurs cherchent des billets tour du monde.
Ouais, ouais, mais en fait, si c'est que tour du monde, bah, on fait effectivement le tour de la planète sans faire 150 000 stops, mais en gros, on part dans un sens et puis on arrive par l'autre, quoi.
Donc voilà, si on veut réduire son empreinte carbone. Mm-hmm. Essayer de faire un maximum par voie terrestre, être un peu raisonnable dans le choix de son itinéraire, c'est éviter les zigzags, éviter de prendre trop l'avion, parce qu'il y a quand même, différents profils de voyageurs, où il y en a qui prennent peu l'avion durant ce voyage au long cours, et puis il y en a d'autres qui vont prendre beaucoup, et en fait qui restent peu de temps dans leur destination, et en fait leur but c'est d'en voir un maximum. Après, on offrait la compensation carbone, on l'offre toujours, mais on voit que finalement très très peu de voyageurs y souscrivent.
Ah ouais.
Donc c'est vraiment pas.
Et ça consiste en quoi du coup cette compensation carbone?
Ici c'était avec une société, c'était Climax, c'était une société basée en Belgique qui avait différents projets. Qui avait différents projets en Afrique, en Amérique du Sud, de fours solaires. Enfin, ils avaient. Donc, mais ça fait tellement longtemps que. Je pense que dernièrement, qu'un voyageur a souscrit. Mais voilà, la demande est très très faible.
Ah ouais, c'est fou.
Parce que c'est fou et en même temps, c'est un voyage qui coûte très cher déjà. Et donc, c'est finalement, c'est déjà, je veux dire, si on fait un tour du monde, c'est que on n'est pas. Voilà, si on fait un voyage au long cours et qu'on accepte de prendre l'avion et qu'on va en apprendre beaucoup, voilà. C'est quand même. On ne fait pas parmi les écologistes les plus militants.
Ouais.
C'est normal. Mais après, je vais le dire politiquement correct, mais c'est vrai, parce que sinon, voilà, prendre l'avion, c'est quand même une aberration écologique. Après, oui, c'est vrai qu'il y en a certains qui compensent, mais voilà, c'est une réalité. Nous, on a mis un système en place pour pouvoir le faire, mais on voit en fait que ça n'a pas d'intérêt.
Et si vous le proposiez d'office, en fait, parce que j'ai remarqué que c'est un truc qui vient après coup. Une fois qu'on est rentré, en fonction des vols qu'on a fait, on a la possibilité de souscrire et donc du coup de donner de l'argent en fait à Climax, si j'ai bien compris. Mais ça pourrait être obligatoire, quoi. Vous pourriez dire, dans nos billets, d'office, il y a une partie qui est reversée à une association et qui fait ci et qui fait ça, et ça compense les émissions carbone. Enfin, je mets toujours des guillemets à compense, hein, bien sûr, mais...
Donc nous, on leur a la possibilité de le faire avant le voyage. Après, ils pourraient le faire aussi après. Hein. Oui, mais d'un côté, on parle de tarification, on parle de prix, et donc finalement, compenser les vols, c'est aussi un certain coût.
Et c'est cher de compenser les vols ?
C'était, de mémoire, en peut-être 200-250 euros.
Par voyageur ?
Par voyageur.
Pour à peu près un an de voyage.
Pour les vols. Ouais. Mais donc, on voit aussi finalement qu'on est aussi dans une industrie où le prix a beaucoup d'influence. Ouais. Et donc, si nous, on l'impose, mais que les autres ne l'imposent pas, et en plus, qu'on voit que quand on le propose, finalement, il y a peu d'intérêt. C'est toujours la question, et ça, c'est une question, c'est qui doit compenser les vols, parce qu'on parle souvent, oui, c'est les compagnies aériennes qui doivent compenser leur empreinte carbone. Est-ce qu'elles doivent, est-ce que c'est les passagers qui doivent compenser, c'est l'agence qui doivent compenser les vols, ou bien c'est la compagnie aérienne? C'est jamais très clair. Donc on dit les compagnies aériennes, c'est-à-dire, est-ce qu'elles vont compenser votre empreinte carbone ou bien leur empreinte carbone. Ouais. donc voilà, nous c'est comme ça qu'on a évolué, parce que le marché comme ça.
Ouais, en plus, enfin, c'est un sujet qui est complexe, à la fois qui semble évident et en même temps non, qui soulève beaucoup de questions, comme les quelques-unes juste que tu viens d'évoquer. Et ça mériterait un épisode complet probablement, mais ouais, c'est un sujet intéressant quand même. Et dernière petite question, parce que je vois que le temps file, comme d'habitude, je me fais toujours absorber par les conversations. Est-ce que quand on est agent de voyage, donc tu voyages tous les jours depuis ton bureau, est-ce que tu as le temps et l'envie aussi, toujours, de découvrir le monde ?
Alors oui, mais c'est vrai que donc moi j'ai voyagé pendant un an et demi. En fait, donc quand on voyage, quand on fait un tour du monde, en fait ce qu'on remarque nous, c'est que, et je l'ai vécu aussi, hein, c'est qu'on part voyager pendant un an ou un an et demi, et puis on est encore en voyage. Quand on revient, on n'a pas encore tout à fait les pieds sur terre, on est encore en train de voyager pendant un an et demi. Donc, parce qu'il y a tous ces souvenirs, il y a toutes ces saveurs qui sont continuellement dans nos têtes, en fait, finalement. Donc, effectivement, quand on revient d'un long voyage, moi j'avais moins besoin de cette envie de voyager, parce que je le vivais toujours un peu au quotidien. Maintenant ça fait un peu longtemps que je ne suis plus parti. Et donc oui, on a toujours très envie, et voilà, même au sein de notre agence, on essaie d'organiser une fois par an un voyage avec tous les membres.
Ah ouais, ok, génial.
Et donc on est parti en Afrique du Sud, et voilà, donc c'est chouette, parce que là, on est une agence assez jeune, il y a une bonne cohésion, et on adore tous voyager, finalement.
Ouais, bah, j'imagine, c'est un peu un prérequis, non, quand vous recrutez.
Bah oui, qu'ils ont une certaine expérience de voyage et qu'ils puissent partager leur expérience, et qu'ils puissent aussi surtout comprendre les voyageurs et qu'est-ce qu'ils vont vivre pour au mieux les conseiller.
Ouais. Et je veux dire, je voudrais juste terminer là-dessus. C'est vrai que moi, j'avais un peu la prétention de croire qu'on savait organiser des voyages, parce que ça fait longtemps qu'on voyage, même qu'on voyage avec nos enfants. Et finalement, en faisant une proposition d'itinéraire à une agence comme la tienne, du coup ton collègue est revenu avec des nouvelles propositions, et au final des choses très pertinentes que voilà, on va intégrer à notre itinéraire. On a échangé de sens, etc. Et donc même quand on a l'habitude de voyager, qu'on se lance dans un tour du monde, ben en fait évidemment on a encore énormément de choses à apprendre en fait de professionnels, quoi. Donc c'est aussi intéressant de ce côté-là de vous contacter.
Oui, en fait, finalement, on voit souvent l'état de maturité d'un projet quand on nous contacte. En fait, on voit, parce que c'est vrai, quand on ne s'y connaît pas, on a des grandes ambitions, mais les grandes ambitions, ça coûte souvent très très cher. Parce qu'on on voit assez rapidement, bon voilà, on va devoir peut-être réduire la voilure ou échanger une destination par une autre, parce que ça va vous faire économiser quand même pas mal et que c'est finalement aussi un des nerfs de la guerre.
Bah ouais. Et d'ailleurs, juste une petite question là qui me vient. Est-ce que vous aussi, du coup, dans votre activité, vous avez été fortement impacté par la hausse des prix? Parce que là, depuis un an et demi, bon, tous les voyageurs ont le même son de cloche quand on achète un billet d'avion pour l'Europe ou, enfin, ou à plus long cours. C'est beaucoup plus cher qu'il y a 2-3 ans, enfin, ou avant le Covid. Est-ce que, du coup, vous aussi, dans ce que vous proposez, forcément, c'est plus cher qu'avant?
Alors, on voit que les prix ont fortement augmenté. On va dire qu'avant, le prix des billets était assez faible. Il n'avait jamais été... En fait, avant, on était vraiment sur des tendances où les prix des billets d'avion diminuaient chaque année, où on était de plus en plus compétitifs. Et donc, effectivement, les voyageurs, les billets d'avion étaient... donc manger une part de leur budget, mais c'était finalement une petite part. Or que maintenant, le billet d'avion, voilà, ça a quand même ça a beaucoup augmenté. Ça a augmenté entre 30 et 40%, je pense. Ouais. Mais ça, et donc, on voit en fait finalement que oui, le billet d'avion, c'est... on a changé de perspective. Où c'était quelque chose de moins cher, quelque chose, et donc peut-être que les voyageurs partent peut-être un peu moins longtemps, ou font des pays un peu plus bon marché pour compenser.
Bah écoute, merci Antoine. Je pense qu'on a déjà balayé un très grand nombre de sujets. Je ne sais pas si on a tout dit. J'espère qu'en tout cas ça a éclairé les auditeurs sur un peu le fonctionnement et les mystères des billets autour du monde. Je te remercie infiniment pour tes conseils et ton partage.
Avec plaisir, Florian.
À bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.
Et voilà, c'est fini pour cet épisode. Un grand merci à Antoine pour son temps, sa disponibilité et toutes ses réponses. Je pense qu'on aurait pu encore rester et discuter un petit moment, mais il fallait être raisonnable dans le timing et la durée de cet épisode. C'est toujours hyper intéressant, je trouve, de discuter avec un professionnel du voyage, du tourisme. Il aurait pu nous raconter aussi plein d'expériences qu'il a vécues en voyage. Enfin bref, c'était passionnant. J'espère que ça vous a donné quelques clés, que vous avez un petit peu mieux compris ce que c'était qu'un billet tour du monde, les différents types, les différentes prestations qu'on peut avoir auprès d'une agence spécialisée dans ce type de billet, et peut-être vous faire une idée si c'est fait pour vous ou pas. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire, à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify. C'est vraiment important pour nous et je sais qu'on vous le rabâche à chaque fois, mais s'il vous plaît, prenez les 10 petites secondes de votre temps pour le faire. Vous pouvez le faire sur le podcast en général ou sur l'épisode, sur chaque épisode, vous pouvez nous dire que vous avez aimé et nous laisser des petits commentaires. Venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux, ça nous fait hyper plaisir, ça nous fait progresser, ça nous fait avancer et ça nous donne aussi de nouvelles idées de sujets à traiter. Donc c'est toujours super chouette d'échanger avec vous tous. Je vous dis à très bientôt. Dans 2 semaines, ça sera aussi un épisode un petit peu particulier, mais je vous laisse la surprise. Allez, d'ici là, je vous souhaite que tout aille bien pour vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!